Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, regard sur la résurgence des passions dans les conflits contemporains. Alors que les sciences sociales, sous l'impulsion dominante de l'économie, ont favorisé l'analyse des intérêts raisonnables pour analyser notre modernité politique, sociale et économique, force est de constater que tout dans l'actualité nous ramène au rôle central des passions, réputées incontrôlables. Passion sociale est une somme en forme de dictionnaire paru aux presses universitaires de France sous la direction de Gloria Origi. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, la philosophe sera notre invitée à 12h55. Mais avant cela, rencontre avec un jeune cinéaste guatémaltèque qui a entrepris de mettre à nu les tabous de sa société. Après la situation des Indiens Mayas, il s'attaque à l'homophobie institutionnalisée et au poids des églises évangélistes. Tremblement sort demain au cinéma. Jairo Bustamante est aujourd'hui l'invité de la Grande Table, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Tremblement, c'est donc votre second long métrage, Jairo Bustamante. Vous êtes donc un réalisateur guatémaltèque. Vous avez été très remarqué à la sortie de votre premier film, Xcanul, Ours d'argent à la Berlinale en 2015. Ce nouveau film qui sort au cinéma demain, donc, arrive auréolé également d'une sélection en compétition au Festival de Berlin et du prix du public des rencontres cinéma du ciné latino, de Toulouse. Tremblement raconte l'histoire de Pablo, un homme de 40 ans, blanc, d'un milieu aisé, religieux, dont la rencontre avec Francisco et la relation qu'il entretient avec lui va bouleverser sa vie, en but à la réprobation de sa famille, dans une société guatémaltèque très homophobe, où la religion en général et l'évangélisme, on en parlera en particulier, sont tout puissants. Il doit faire face surtout à sa propre honte qui le dévore jusqu'à le pousser à se renier, à suivre l'un de ses stages dits de conversion à l'hétérosexualité qui se multiplie au Guatemala, mais pas seulement, ça existe également dans d'autres pays, aux États-Unis et même en France, j'ai pu lire ça. Bonjour Jairo Bustamante.
Bonjour, merci.
Pardon pour ma prononciation de votre prénom.
Elle est très bonne.
La Rota m'a toujours résisté dans toutes mes années d'études de l'espagnol. Alors, comment êtes-vous venu à ce sujet, hein, après avoir traité, je le disais dans Xcanul, de la question qui touche la communauté maya au Guatemala? Là, vous intéressez plutôt, on va dire, à la bonne société.
Il y a deux insultes qui sont très les pires au Guatemala et qui sont perpétuées et protégées presque. Le premier, c'est indien, donc le reflet d'une société qui discrimine plus de 90% du pays et qui est dans une non-acceptation d'identité. Et le deuxième, c'est homosexuel, dont on les appelle huecos, que ça veut dire trou. Et donc, être homosexuel au Guatemala révèle plutôt du machisme et de la misogynie que de la simple homophobie. Donc, par exemple, au Guatemala, un homosexuel est considéré... quelqu'un qui veut se rabaisser parce qu'en étant homme, il se féminise un peu. Et c'était cette complexité sociale qui m'intéressait dans le sujet.
Et vous l'abordez sous l'angle, comme je le disais, de la bonne société du Guatemala, une bourgeoisie, on peut le dire ainsi, blanche, qui est avec des serviteurs ou en tout cas un personnel qui est issu des communautés indiennes, mayas du pays. Mais c'est vraiment cette société très refermée sur elle-même qui sent presque la naphtaline. Jairo Bustamante.
Oui, disons que ça vient un peu de l'étude que j'ai faite. Je un peu rencontré un groupe de 22, Pablo,
que évidemment Pablo, c'est le héros, c'est le personnage principal de votre film.
Voilà, et que je suis allé chercher, ils venaient tous de cette classe sociale, et moi je trouvais ça très intéressant parce que comme ça, on ne pouvait pas laisser les spectateurs la justification de dire « Ah oui, c'est parce que les personnages sont pauvres, parce qu'il n'a pas eu accès à l'éducation, parce qu'il n'a pas eu accès au monde extérieur ». Qu'ils ne se rendent pas compte dans quelle prison il y est. Mais en fait, non. Il est beau, fort, en bonne santé, blond, caucasien.
Il a une femme magnifique, deux enfants.
Tout va bien. Et quand même, il est là-dedans parce que la religion est tellement présente dans mon pays que, et surtout parce que la religion a un objectif et c'est d'enlever les libres arbitres et d'enlever la conscience et d'enlever l'autocritique.
Et ça crée une ambiance, Jairo Bustamante, vous créez une ambiance dans ce film qui est absolument suffocante à l'image de la bande-annonce.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Anormal.
Yo.
Esto es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte.
Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que en el fondo usted no es así.
Mejor pregúntele si no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia.
Te pedimos, Señor, para que hoy, Señor, renuncie.
¿Tú sabes quién es?
Es más joven.
Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto.
¡Papi!
Dios ama a los pecadores. Lo que no ama es el pecado.
Votre film, Jairo Bustamante, dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce, je le disais, est d'une ambiance absolument suffocante. Et ça commence comme un huis clos. Pablo arrive chez lui, il traverse la circulation absolument impossible de Guatemala City dans sa voiture, sous la pluie. Il arrive chez lui dans un intérieur bourgeois, je le disais, très, très élégant, avec du personnel qui lui ouvre la porte, qui l'accueille. Et là, il trouve sa famille dans une ambiance de deuil, on peut pas le dire autrement. Et si on connaît pas le sujet du film, on met un petit temps à comprendre de quoi il s'agit. Début du film, vous filmez ça presque comme du théâtre. Il y a une scène inaugurale et une série de huis clos, de rencontres entre les personnages qui créent cette ambiance d'enfermement qui rappelle, ou en tout cas qui annonce l'enfermement progressif de Pablo en lui-même face à la réprobation sociale.
Oui, disons que face à une société qui, à mon point de vue, est un peu rétrograde vis-à-vis des droits de l'homme et vis-à-vis des droits sociaux, et je me suis permis d'utiliser toute cette esthétique des années 70 de cinéma américain et européen qui me plaît énormément. Mais je suis aussi mélangé un peu avec l'autre univers, que c'est la ville, les gens qui ont été ôtés, qui doivent vivre en face à leur vérité. Et de mélanger aussi ce qu'on faisait au Japon dans les documentaires des années 70, et dont on pouvait être dans un marché et du coup se rendre compte que la caméra était sur un travelling et dont l'esthétique était très présente. Et j'étais très conscient que je suis allé partir sur un univers très sombre et très dur. Je voulais inviter les spectateurs à faire une apnée avec le personnage. Et donc pour moi, travailler avec la magie de la cinématographie et l'esthétique du film et faire un voyage beaucoup plus et agréable à les spectateurs de par l'image et le son était très important.
Parlons un peu de cette image et de cette cinématographie avant de rentrer dans l'histoire qui révèle aussi la situation de votre pays. Vous en avez déjà dit un mot, Jairo Bustamante. Il y a beaucoup de plans en caméra fixe. Quand c'est les plans en intérieur, vous l'avez dit, il y a des travelling quand on est à l'extérieur, dans la voiture, dans la rue, ça bouge. Et il y a des panneautages aussi sur des toits d'immeubles. Enfin voilà, il y a quelque chose comme un mouvement de la caméra important quand on est à l'extérieur. En revanche, quand on est en intérieur, ce sont des caméras fixes, parfois un peu en retrait dans une autre pièce, comme si le spectateur était placé en position de voyeur et il était associé à la scène en quelque sorte.
Oui, il était très important pour moi de tourner tous ces intérieurs avec la rigueur de la religion. Et je suis allé même plus loin quand je tournais tous les traitements. Et c'était plutôt l'inspiration d'un camp de concentration de ce qui se passe là, parce que du coup, quand on vit dans une société dont l'État ne parvient pas à donner tout ce dont les citoyens ils ont besoin, il y a des institutions comme ça, quelque part des institutions religieuses, qui offrent certains services, mais qui en revanche peuvent mettre des règles, des lois que personne ne contrôle. Et je ne sais pas, ça c'est encore une question que je me pose, du pourquoi l'être humain, à chaque fois qu'il n'est pas contrôlé, il va à l'encontre des droits de l'homme.
C'est votre sentiment, vous avez l'impression que...
Oui, complètement. Je crois qu'il y a une envie de nous détruire, de nous détruire en masse. Et c'est peut-être parce que je viens d'un pays où il y a eu tellement de dictatures, tellement, une guerre civile tellement longue, un génocide qui a mal été traité.
De 1960 aux années 90.
Voilà, exactement.
Et justement, vous parliez de ce traitement, hein, je mets des guillemets, les auditeurs ne le voient pas, cette conversion à l'hétérosexualité qui est proposée par l'Église. Je vous propose d'écouter un extrait, ça se passe dans les douches. Pablo vient de commencer son traitement et voilà comment ça se passe.
El primer paso, que es el más difícil, ustedes ya lo superaron, porque no son afeminados. Este periodo, tratando de quitar las mañas, es el más largo. Esta parte ya está ganada. El segundo paso es dejar de practicar. Y el tercer y último paso es regresar hacia las mujeres, hacia la familia, para vivir como manda la palabra. A esta vida no venimos a ser felices así nomás. Venimos a hacer sacrificios por Dios. Ahí está la felicidad. ¿Entienden?
Sí, señora.
¿Entienden?
Sí, señora.
Reflexionen sobre esto durante la tarde de voto de silencio.
Je vous demanderai, Jairo Bustamante, un petit peu de traduction, parce que le film, évidemment, est en espagnol. Mais juste un mot, quand même, sur ces scènes de conversion qui peuvent sembler complètement surréalistes, entre le camp militaire, le corps religieux. Et parfois aussi, ça me fait penser à du développement personnel. Vous savez, des cours des grandes messes de développement personnel qu'on voit beaucoup aux États-Unis et en Amérique latine. Voilà, des espèces de gourous qui vous apprennent à être heureux, à assumer votre vie, à vous développer. Il y a quelque chose de ça. Comment vous avez dit que vous êtes documenté pour ça. D'abord un petit mot sur ce que dit cette femme, hein, qui est la femme du pasteur, mais qui est le personnage central aussi dans cette démarche.
Elle est en train d'expliquer la thérapie qui est sur trois phases. Donc la première thérapie, c'est de comprendre qu'on est une abomination, que il y a quelque chose de progressiste aujourd'hui dans l'Église, si on peut le dire comme ça, entre guillemets. C'est que l'Église ne pense plus qu'on peut soigner l'homosexualité au Guatemala. L'Église pense qu'on peut n'est pas y pratiquer. Et ça, c'est la deuxième partie du traitement. C'est-à-dire, on a compris qu'on est une abomination. On doit comprendre et on doit s'empêcher d'y pratiquer. C'est comme un peu un traitement pour des dépendances aux narcotiques.
Et la troisième. Qui peut aller jusqu'à un traitement chimique, hein, un traitement jusqu'à castration chimique.
Castration temporaire, ils font. Et la troisième partie, c'est revenir aux femmes. Et ça démontre à nouveau cette société qui est complètement machiste, dont l'homme est celui qui intéresse, et la femme, on s'en fout un peu si elle va finir mariée avec quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance pour elle. Mais au-delà de tout ça, il faut pas oublier que c'est aussi un grand business. Et les traitements sont très chers.
$1,500.
Mais ça dépend quel type d'église vous fréquentez, parce que aussi les églises.
Oui, il n'y a pas d'unité. Hein,
voilà, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas un prix unique. Et il y a des traitements qui vont de traverser une archée d'arc-en-ciel, des ballons en arc-en-ciel, et donner de l'argent en promettant à Dieu de ne jamais coucher avec quelqu'un du même sexe, jusqu'à la castration temporaire. Mais aujourd'hui, ils sont trouvés un autre marché qui est très intéressant, et c'est le marché des jeunes couples avec des enfants en bas âge. Et donc, ils ne s'attaquent plus à l'homosexuel directement. Là, ils s'attaquent aux parents et ils donnent des cours, des stages comme ça, de week-ends ou des semaines entières, où on apprend aux parents quoi faire pour éviter que son enfant soit homosexuel. Et donc, évidemment, c'est très intéressant parce que ça joue avec toute la culpabilité du parent. Et si vous ne faites pas ça, ou si vous le faites, mais vous l'avez pas fait, en offrant l'argent qu'il fallait et avec la foi qu'il fallait, c'est de votre faute.
Et on le voit, hein, que les femmes sont aussi des victimes indirectes de cette pression sociale. Il y a la femme Isa de Pablo, il y a sa mère aussi. Il y a une scène où elles s'affrontent, en quelque sorte, en se rejetant la culpabilité l'une sur l'autre. La mère disant « moi j'ai élevé mes fils comme des cavalieros, comme des hommes et des vrais ». Il y a quelque chose qui a dérapé. Et la femme qui, elle, a lu des livres de psychologie, qui manifestement est très éduquée, et qui dit « non, tout ça est dû, je serais même incapable de le répéter, parce qu'elle a tout un verbiage, un jargon psychologique, disant bah, en gros c'est un père faible et une mère surprotectrice qui a donné cette homosexualité. Et on voit cette femme Isa qui ne sait pas comment se comporter et qui finit par de façon défensive par prendre des avocats, révéler l'homosexualité de son mari, ce qui lui vaut à Pablo d'être renvoyé de son travail, de ne plus pouvoir en retrouver. Bref, toute cette pression sociale, c'est aussi une pression qui s'exerce sur les femmes.
Oui, et surtout, il y a quelque chose, disons que dans la façon dont l'Église est tellement présente dans l'Amérique latine, presque obscurantiste. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'Église a un comportement très, très misogyne. Et il y a eu quelque chose de machiavélique qui est imposé, c'est que les femmes sont devenues les plus grosses défenseurs de l'agresseur. Et sans se rendre compte que c'est elles les victimes principales. C'est-à-dire, encore au Guatemala, il y a question pour les femmes, dans des viols, de comprendre des parts de personnes religieuses, si la femme n'a pas...
Une part de responsabilité. Elle
n'a pas une part de responsabilité parce qu'elle a tenté l'homme. L'homme est tout simplement quelqu'un qui est charnel. Et surtout, quand Dieu est tellement présent de cette façon-là, et le diable aussi. Et donc, le diable était rentré dans le corps de l'homme. Et en revanche, le diable vit, on dirait qu'il vit presque tout le temps dans le corps de la femme parce que elle est sans cesse culpée de tentations.
Coupable, d'être une tentatrice. Ce n'est pas nouveau, évidemment, Ray Robustamente, ni propre à cette religion, en tout cas cette expression de la religion chrétienne qu'est l'évangélisme. Un mot peut-être, puisque vous avez parlé du corps de ce titre tremblement, tremblement au pluriel. Et c'est les tremblements de terre qui viennent marquer le film, et c'est aussi le tremblement de la chair. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir à l'issue de ce film. Vous filmez la nudité des corps, vous filmez même une scène de sexe entre Pablo et Francisco. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour ces scènes, et est-ce que c'était important pour vous de montrer cette nudité, de montrer ce rapport au corps aussi?
C'est assez drôle parce que les scènes sont très très pudiques en elles-mêmes, et mais je les avais décrites au scénario d'une façon beaucoup plus claire. Et c'était intentionnel pour comprendre la réaction des comédiens. Je ne voulais pas des comédiens qui soient tièdes vis-à-vis de ces sujets, surtout dans un pays tellement, tellement macho. Et donc, évidemment, la réaction des comédiens, 80% des comédiens qui ont passé le casting ont dit non, merci. Et d'autres ont dit... Et les comédiens qui sont restés, ils sont bien voulu le faire. Mais ils s'étaient préparés beaucoup plus en chair pour ça. Ils s'étaient presque déçus à la fin quand ils ont vu que les scènes n'étaient pas autant...
L'acteur principal qui joue Pablo, Juan Pablo Olisaga, est un acteur connu au Guatemala. L'acteur qui joue Francisco, qui est Mauricio Armas Zebadua, vous le redirez beaucoup mieux que moi, est également un acteur professionnel. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs du film.
Non, Mauricio n'est pas professionnel, c'est son premier film.
Ah d'accord.
Ouais. En fait, il n'y avait que deux comédiens professionnels dans le film, Juan Pablo et Rosa, Maria Telón, qui joue le rôle de la nounou.
Il est tellement bon, Mauricio, dans son rôle de Francisco.
Mais on a fait une formation de presque un an et demi avec certains. Parce qu'il faut comprendre que la situation du cinéma au Guatemala est aussi une situation très précaire. C'est un cinéma émergent, on fait 4 films par an. Et c'est des films qui sortent pas du pays ou qui n'ont même pas de distribution dans les pays parce qu'il n'y a pas de salles pour des films indépendants.
Vous avez créé votre propre boîte de production. Après, vous avez créé votre boîte de distribution, une salle de cinéma pour montrer qui est, je crois, la première et seule salle de cinéma à réessayer au Guatemala. Donc ça montre la nécessité pour un réalisateur comme vous, un jeune réalisateur, de créer tout l'écosystème pour montrer ce film.
Voilà. Et après ça, on doit former les comédiens. On est devenus des agents des comédiens pour les aider à continuer leur carrière. Et je suis le seul qui ait fait tout ça. Mais tous les réalisateurs au Guatemala ont un peu le même parcours pour faire leur film. Ils doivent quelque part être aussi producteurs, quelque part chercher aussi du financement.
L'accent français, luxembourgeois également.
Et là, pour nous, c'était une grande aide. Une grande aide, pouvoir coproduire avec la France et le Luxembourg. Et surtout, en France, avoir des associés si forts que le CNC reconnaisse le travail, que Arte se unisse avec nous, que Memento rentre dans les films, plus mes coproducteurs. Tu vas voir, je pense que ça nous a vraiment donné une force, et quelque part ça c'est aussi une protection, parce que le film au Guatemala va sûrement causer beaucoup de tremblements.
De tremblements, et pas que des tremblements de terre, Jairo Bustamante. Justement, vous disiez, les films ne sortent pas du Guatemala. Pourtant, le sujet que vous traitez, cette question du pouvoir du courant évangéliste, et de ce pouvoir presque politique, on l'a vu avec Jairo Bolsonaro au Brésil, récemment, c'est un sujet qui n'est pas seulement au Guatemala, qui existe dans toute l'Amérique latine, et plus largement, évidemment, on peut faire un parallèle avec Trump aux États-Unis, et ce sont aussi des églises qui connaissent un succès de plus en plus important en Europe, en France, et ont existé ce type de stage. On a pu entendre des reportages, notamment sur France Info récemment, sur ce sujet.
Oui, c'est un sujet qui prend... Mais je pense qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas dedans. C'est-à-dire au Guatemala, même dans les taxis marquent s'ils sont à quelle religion ils appartiennent. Et pas seulement ça, ils vous disent s'ils sont pratiquants ou consacrés, je pense qu'ils l'appellent. Et quelque part dans des pays qui sont si insécures ou si dangereux, c'est censé nous rassurer. C'est censé penser que les gens religieux sont meilleurs que les non-religieux. Parce qu'on revient encore une fois à la question de si Dieu est utilisé comme une arme qui permet à tout le monde de juger l'autre, ça veut dire que le diable existe aussi. Donc c'est vraiment un univers de réalisme magique complet. D'ailleurs, on le voit dans ce type de d'activités religieuses. C'est vraiment de la magie. C'est des pasteurs qui font tomber des masses de gens avec un mouvement de leurs mains. C'est des cris, c'est des gens qui parlent des langues, c'est des attaques euphoriques massives.
Parler en langue, c'est rentrer dans une espèce de transe et penser s'adresser à Dieu dans un langage qui n'est évidemment pas compréhensible pour l'être humain.
Exactement. Et avec tout ça, il y a le moment où tout le monde est comme ça au top de son euphorisme, et quelqu'un crie, il faut donner à Dieu tout ce que vous savez, et là, et ça devient un business très rentable.
Vous avez prononcé l'expression réalisme magique, qui renvoie à tout un courant littéraire aussi, des années 60, 70, et c'est vrai que c'est très présent. À vrai dire, j'y avais pas pensé en voyant votre film, mais ça apparaît comme évident, et même dans toute notre filmographie, je pense à Excanul aussi, qui était plus terrien, voilà, avec ses paysages de jungle, ses paysages marqués par la lave, par l'éruption des volcans. Là, vous avez, je l'ai dit, choisi, même s'il y avait de la ville aussi, un petit peu à la fin dans Excanul, mais là vous avez choisi de montrer Guatemala City et de la montrer à travers aussi le chaos et ce personnage de Francesco dont il faut dire un mot, qui arrive à vivre son homosexualité. Il y a une discussion assez forte avec Pablo où il lui dit qu'est-ce que c'est qu'être un homme, est-ce que c'est avoir des enfants ou est-ce que c'est réussir à s'assumer, d'avoir le courage de s'assumer, et en même temps Pablo n'a aucun moyen de s'assumer puisque pour s'assumer il faut être un marginal.
Oui, être marginal, c'est très dur, le prix est très fort. Et évidemment, on aime les gens comme Francisco. C'est lui qu'on voudrait continuer à écouter dans le film. Mais les cas de Francisco sont très réduits. C'est-à-dire, moi, je comprends qu'on ait envie aussi de voir des films qui parlent du sujet LGTB d'une façon plus positive. Mais il y a des pays comme certains pays en Amérique latine, ou l'Afrique, ou la Russie, dont c'est pas encore le cas. On ne peut pas encore s'inventer des happy ends parce qu'on n'est même pas au happy beginning. C'est vraiment, il y a tout un chemin à faire.
Tout un chemin qui évidemment vous esquissez avec ce personnage de Francesco, et c'est vrai qu'on se dit à la fin du film qu'on ne révélera pas, mais voilà, on a déjà commencé à comprendre que Pablo n'arrivera pas à vivre, puisque c'est impossible, à vivre son homosexualité. Il va revenir vers sa femme, il va revenir vers l'église, et pour vous c'est quoi, pour lui c'est un échec, c'était une fin, une sorte de tragédie en fait, une fin annoncée?
Oui, disons que c'est un anti-héros, et en même temps, je ne pense pas qu'il va pas réussir. Il faut attendre le tremblement qui suit. Et il y a surtout moi, je pense que dans la recherche que j'ai faite, dans tous les Pablo avec lesquels je suis parlé, certains d'entre eux se sont libérés pendant le processus. Et ils se sont libérés parce qu'ils se sont rendus compte que leurs enfants n'avaient rien à faire avec ce problème. Que la nouvelle génération n'avait plus de soucis avec ça. Et donc, quelque part, je pense que Je pense que l'espoir est là. J'espère que ces gens-là ne vont pas devenir conservateurs à cause de la religion, mais...
C'est intéressant que vous parliez des enfants, Jairo Bustamante, puisque justement, il y a ces deux enfants, les enfants de Pablo et Isa, qui ne comprennent pas très bien pourquoi ils sont séparés de leur père, puisqu'un juge ordonne la séparation au risque de la pédophilie, puisque l'homosexualité est encore liée au Guatemala à la question de la pédophilie. Et,
à toute abomination d'ailleurs.
À toute forme d'abomination. Ouais. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est réglé. Et pourtant, il y a ce regard des enfants qui existe aussi, qui est important, qui ne comprennent pas, mais qui finalement apporte, c'est peut-être un peu banal de le dire, mais une forme de vérité aussi.
Oui, complètement. Je pense que la révolution viendra d'eux. Et surtout des filles. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette nouvelle génération, une nouvelle génération féminine, qui commence dans cette société à comprendre sa place qui est tellement qui est tellement réduite et qui vont lutter pour avoir un peu plus d'espace et plus de voix.
Vous êtes optimiste alors ?
Et dans l'obscurité de ma société un peu.
Vous avez traité, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs insultes importantes au Guatemala. Il y a indien, il y a homosexuel, et il y en a une troisième, c'est communiste. Ce sera le sujet de votre prochain film.
Je l'espère. Évidemment, communiste n'a... Non, oui, j'y travaille plutôt. Communiste n'a rien à voir avec l'idéologie politique. C'est juste, au Guatemala, si on s'inquiète pour les droits sociaux ou les droits de quelqu'un d'autre, on devient communiste.
C'est l'héritage, évidemment, de l'histoire du Guatemala, de cette guerre civile dont vous nous avez parlé, du rôle qu'ont pu jouer les États-Unis, notamment après la Seconde Guerre mondiale, dans l'évolution du pays en pleine guerre froide. Mais ça, vous reviendrez pour nous en parler à la sortie de votre prochain film, Jairo Bustamante. Tremblement, ça sort donc demain, 1er mai, au cinéma. Merci d'être passé par le studio de la
Grande Table. Merci à vous.